Bonsoir. Hier soir, avant le concert, une auditrice se demandait avec moi, s'émerveillait avec moi de la puissance créatrice de Beethoven. Et elle me demandait si je savais où il puisait ses idées musicales. Alors bien sûr, je ne le sais pas. Mais je lui ai dit que je lui ai donné à lire un texte que j'ai envie de vous lire maintenant, parce que c'est celui que je vous aurais lu sans doute si on avait eu le temps de continuer notre petit travail hier soir, notamment sur les problèmes de l'espace. Alors je vous lis ce texte parce qu'il est admirable, comme beaucoup de choses que Beethoven a écrites sur la musique. Il a écrit peu de choses, mais ce qu'il a écrit est toujours très intéressant. Et entre parenthèses, à propos de la surdité, je vous conseille à tous de lire, si vous ne l'avez pas déjà fait, le fameux testament d'Eilenstadt, qu'elle a écrit en 1802 et qui est une grande page de littérature, en dehors de l'intérêt que ça présente, évidemment, pour la connaissance de Beethoven et de son œuvre, mais sur le problème, disons que c'est presque une page philosophique, poétique, humaniste, enfin, elle a des milliers de qualités. Il existe d'ailleurs une version de cette page lue en allemand par Karlheinz Stockhausen, qui est un compositeur contemporain que vous connaissez sûrement, et c'est tout à fait admirable. C'est presque terrifiant d'ailleurs, ça fait penser au monologue d'Egmont, que vous connaissez peut-être aussi, qui est Egmont, une musique de scène de Beethoven, où un récitant, bien sûr, va dire le monologue d'Egmont au moment de sa mort sur un roulement de tambour. Ça n'a rien à voir avec le sujet, mais je me laisse emporter par ma passion beethovenienne. Bon, donc je vous lis ce texte. Je dois chausser mes lunettes. Je porte mes idées en moi longtemps, souvent très longtemps avant de les écrire. Il m'en reste ainsi une mémoire si fidèle que je suis sûr de ne jamais oublier, même après des années, un thème que j'ai conçu une fois. Je change beaucoup de choses, je rejette et j'essaie à nouveau, autant qu'il le faut, jusqu'à ce que je sois satisfait. Alors commence dans ma tête l'élaboration en largeur, en longueur, en hauteur et en profondeur. Je fais une petite interruption parce que je voulais vous lire ce texte puisqu'hier nous parlions de l'espace à propos des quatuors Razumovsky et du premier, l'opus 59 numéro 1. Je vous disais que justement une des acquisitions de Beethoven des quatuors Razumovsky, c'était précisément l'espace, le fait que d'emblée le compositeur s'appropriait l'espace dans toutes ses dimensions, depuis le grave jusqu'à l'aigu. Et ça, c'est tout à fait caractéristique de son style héroïque. On le trouve dans le 7e quatuor de manière exemplaire. Je vous l'ai montré notamment dès le début avec cette grande montée du grave violoncelle à l'aigu du violon. Mais par exemple, si vous l'avez en tête, le concerto de l'Empereur commence par deux cadences où le pianiste s'approprie l'ensemble des registres du piano. Donc l'espace, c'est une notion tout à fait nouvelle avec Beethoven, parce que tous les compositeurs, bien sûr, travaillaient avec l'espace. Mais chez lui, l'espace devient vraiment pensé et fait partie de l'arsenal du compositeur. Alors qu'avant, on écrit des hauteurs en fonction de préoccupations plutôt d'ordre mélodique ou harmonique. Et tandis que Beethoven, vraiment, l'espace existe en soi en tant que tel, avec un haut, un bas, et comme il l'écrit ici, en largeur, en profondeur, en hauteur, etc. Donc je continue parce que le reste répond à la question que posait cette auditrice et à voir aussi avec ce dont nous allons parler ce soir. Et comme j'ai nettement conscience de ce que je veux, l'idée qui fermente en moi, qui fermente au fond, ne m'abandonne jamais. Elle monte, elle pousse. J'entends et je vois l'image dans tout son développement, elle se dresse devant mon esprit comme une coulée, et il ne me reste plus que le travail de la mettre par écrit, ce qui avance très vite, selon que j'en trouve le temps. C'est pour ça, par exemple, on sait qu'il a écrit le final de la sonate pour corps opus 17 en une nuit. Mais évidemment, écrire, le temps matériel d'écrire est ce qu'il est. Mais l'essentiel est déjà fait chez lui de manière intérieure, parce qu'il a un cerveau ainsi fait qu'il retient tout ce qu'il envisage de manière absolument claire et précise. Alors, selon que j'en trouve le temps, le travail de la mettre par écrit, ce qui avance très vite, selon que j'en trouve le temps, parce que souvent je travaille à plusieurs choses en même temps, mais je suis sûr de ne pas les embrouiller ensemble. Vous me demanderez où je prends mes idées. Je ne peux pas le dire avec certitude. Elles surgissent, sans avoir été évoquées, immédiatement ou par étapes. Je pourrais les saisir avec mes mains, dans la libre nature, dans la forêt, en promenade, dans le calme de la nuit, à l'aurore. Ce qu'il suscite, ce sont des dispositions d'esprit qui s'expriment avec des mots chez le poète. et s'exprime chez moi par des sons résonnants, bruissants, tempêtants, jusqu'à ce que, enfin, il soit en moi de la musique. Voilà, je trouve que c'est très intéressant, c'est une très belle phrase, et qui s'applique effectivement à tout ce qu'a composé de Beethoven de grand. Et alors, nous allons justement parler ce soir de ce qu'il y a peut-être de plus grand. Dieu sait si Beethoven est grand, mais avec les années quatuors, nous arrivons à une période de dépassement de tout ce qu'il a fait jusque-là. L'équateur Razumovsky, ou l'équateur de Médian de manière générale, était constitué une nouvelle naissance du quatuor à cordes. Le quatuor a été créé par Haydn, mais avec l'équateur Razumovsky, c'est vraiment une ère nouvelle qui s'ouvre pour le quatuor. Et disons que tous les quatuors romantiques, que ce soit ceux de Mendelssohn, Schumann, Brahms, naissent en fait des Razumovsky. Parce que, en fait, ces compositeurs-là ont mal et peu compris les derniers quatuors. Brahms, par exemple, s'est vraiment arrêté au 11e et ensuite il ne comprenait pas. Il n'est pas le seul. Beaucoup de compositeurs romantiques avaient du mal avec ces quatuors qui sont tellement, effectivement, qui dépassent tellement largement les horizons du 19e siècle. Donc, effectivement, les compositeurs, même progressistes en leur temps, étaient quand même dépassés par l'invention fulgurante de Beethoven, par son côté visionnaire. Alors, on parlait justement hier, le sujet à la conférence, c'était Beethoven visionnaire, l'ensemble des quatuors comme œuvre visionnaire. Et effectivement, je ne vous ai pas cité hier cette phrase que j'aime beaucoup, visionnaire, on a parlé de ça en raison de toutes les innovations de Beethoven, mais disons que visionnaire, pour reprendre la formule de Breton que j'aime, c'est ce qui frémit des réflexes de l'avenir. Très belle formule poétique qui correspond tout à fait à ce que Beethoven a fait, toute son œuvre, mais particulièrement dans les derniers quatuors. Mais pour rendre justice quand même à l'opus 18, dont j'ai peu parlé, on a vu hier qu'il frémissait des réflexes de l'avenir beethovenien, mais parfois aussi, ces quatuors portent en eux des fulgurances absolument incroyables et qui vont même jusqu'à la fin du 19e ou 20e. Hier, vous avez écouté les variations de l'opus 18 numéro 5, une page absolument merveilleuse, et la troisième variation, qui est sans doute une des plus belles. Dans cette variation, il y a des textures qui annoncent tout à fait les murmures de la forêt, de Siegfried, de Wagner, et à la fin du mouvement, dans la coda, on entend déjà presque l'air de Walther des maîtres chanteurs. Donc là, il s'agit évidemment de fulgurance, enfin, d'intuition de ce que va devenir la mélodie ou de ce qu'ont devenir les textures. Et Beethoven a apporté bien plus que cela. Mais disons que c'est intéressant de voir que déjà dès l'opus 18, il y a cette tendance, cette poussée vers l'avenir. Alors, parlons enfin maintenant du sujet, les derniers quatuors. Eh bien, de manière générale, je l'ai dit hier, les derniers quatuors sont la clôture du dernier style de la troisième manière de Beethoven. Ce dernier style, vous savez, on dit classiquement, il y a trois styles, le Beethoven qui se cherche, le Beethoven qui se trouve et le Beethoven qui se dépasse. Opus 18, Razumovsky, quatuor médian et dernier quatuor. Bon, c'est une formule, mais elle n'est pas si fausse que ça. Et effectivement, les derniers quatuors, ou les œuvres, de manière générale, les œuvres de la dernière manière, sont des œuvres de dépassement. Tout ce qui a été fait jusque-là se trouve agrandi, approfondi, illuminé. Et ce qu'il faut savoir, je pense, alors maintenant, on peut s'interroger sur les raisons de cette espèce de renaissance de force vitale absolument extraordinaire qui caractérise les derniers quatuors. Eh bien, en fait, je crois qu'il est bon de rappeler que Beethoven a traversé entre 1813 et 1817, une crise morale, psychologique, affective et même de création absolument incroyable. Il a d'ailleurs failli réellement suicider, il l'a envisagé. Et Maynard Solomon, dont je vous conseille fortement le livre, qui est un des meilleurs biographes de Beethoven, justement, qui a aussi des connaissances en psychologie, a très bien étudié les mécanismes psychiques de Beethoven à cette époque-là et montre combien ils étaient fragilisés et qu'effectivement, en 1813, Beethoven était tout près du suicide. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, une accumulation de choses. D'une part, le grand amour de sa vie, je ne vais pas en parler d'un siècle, mais disons, sans doute pour Antonia Brentano, a été rompu pour des raisons complexes, mais ça a terriblement affecté Beethoven pendant 5 ans. Et d'ailleurs, l'œuvre qui a été l'œuvre de résurrection par rapport à ce désir d'amour qui n'a jamais pu être réalisé, il l'a été temporairement et partiellement avec Antonia, mais enfin globalement, ils ont dû se quitter. Donc ce désir fantasmé a été assumé et vécu en fait dans une œuvre, Anne Liferne Gélipte, un cycle de Lieder qu'il a composé en 1816. Mais donc, globalement, à partir de 1813, il est sous le coup de cette rupture qui le brise profondément. Première chose. Deuxièmement, tous ses protecteurs, entre guillemets, tous ses mécènes sont morts, ont quitté Vienne ou l'ont abandonné. Le public lui-même le trahit au profit de Rossini, qui devient le musicien favori des Viennois. Sa santé s'aggrave. Il devient de plus en plus sourd. En 1817, sa surdité est quasiment totale. Quelqu'un me demandait hier justement ce qu'il en était de sa surdité. Il faut savoir qu'elle a commencé, les atteintes de la surdité commencent dès 1796, donc juste avant l'écriture des premiers quatuors. Et elle ne cesse de le ronger et de s'aggraver jusqu'à 1817, où elle devient vraiment terrible, à tel point que ça le plonge vraiment dans un drame profond. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il va écouter les gens avec un cornet acoustique, jouer du piano en mettant une règle en métal entre ses dents pour entendre les sons, et communiquer avec autrui avec des cahiers de conversation. Donc c'est vous dire dans quelle situation il est. Donc, et puis alors, dernier point, qui s'accuse en 1817, c'est que même sa veine créatrice qui avait été si féconde entre 1803 et 1811 se tarit. Alors petit à petit, il y a encore des chefs-d'œuvre qui apparaissent, les sonates pour violoncelle, la sonate de 101, Anne Liferne Gélipte dont je parlais, mais globalement, ça se ralentit, ça s'essouffle, et en 1817, Beethoven ne compose plus que 20 minutes de musique, donc 9, et parmi lesquelles un lied avec le titre français « Résignation », un choral pour trois voix d'hommes qui s'appelle « Le chant des moines » sur un hymne de Schiller qui dit « Aux morts, attends-toi à la mort, elle peut arriver à tout moment ». Donc c'est vous dire l'état d'esprit dans lequel Beethoven vit en 1817. En termes de composition, il ne fait guère que de transcrire pour d'autres formations des œuvres qu'il a déjà écrites. Or en fait, on sait très bien que la transcription est quelque chose qui le récuse, qu'il le considère comme presque une entorse profonde à la personnalité de l'œuvre. Parce qu'on a dit hier, on a vu à quel point Beethoven voulait que chaque œuvre soit singulière. Eh bien, transcrire, c'est d'une certaine manière à la fois trahir l'œuvre et nier sa singularité. Donc, il n'aimait pas ça. Néanmoins, en 1817, il l'a fait parce qu'il était vraiment au bout du rouleau. Et puis, à partir de 1818, il va renaître, et c'est ce que Romain Rolland, dans ses merveilleuses époques créatrices de Beethoven, un ouvrage en 6 volumes, que l'on trouve encore, je pense, qui a été édité par les éditions du Sablier, repris par Albin Michel, que je vous conseille aussi de chercher, si vous le trouvez. Je pense que c'est peut-être épuisé, mais on doit le trouver chez les bons bouquinistes ou les libraires de livres anciens. Et c'est une somme absolument remarquable. Et lui parle justement du chant de la résurrection. Et je crois que c'est ça le secret de la renaissance de Beethoven, c'est vrai de la dernière manière, c'est le chant de la résurrection. C'est-à-dire que ses forces vont revenir, et en fait, il va être tiré par une œuvre majeure qui va l'occuper pendant 5 ans et sur laquelle il va beaucoup penser, à laquelle il va beaucoup réfléchir, et qui est vraiment l'œuvre autour de laquelle tout va se reconstruire. C'est la Missa Solemnis, œuvre de résurrection par excellence. Et pendant qu'il composera cette Missa Solemnis, de 1819 à 1823, vont naître les dernières sonates à partir de 1806, les bagatelles, qu'il ne faut pas du tout mépriser, et puis la 9e symphonie juste après la Missa Solemnis, et ensuite les derniers quatuors. Donc tout ça, c'est né d'un même flot. Alors,